Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une distinction, une légion, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Peut-être pas. C'est pas grave. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a aucun problème. Si effectivement quelqu'un dans la salle a une distinction, quelle qu'elle soit, elle lui a été remise par une personne qui en a l'autorité. Et j'ai à cœur de partager avec vous un verset. Ça fait des mois que je veux partager ce verset, mais ça n'a pas été donné. Il y a des moments où j'ai commencé à le travailler, puis ça n'a pas fonctionné. Mais là, voilà, c'est ce verset que j'apprécie beaucoup et qui est très court, et qui est dans 1 Corinthiens 4, verset 7. On va lire, bien sûr, autour de ce verset. C'est un verset qui me touche beaucoup et qui nécessite qu'on s'y arrête quelques minutes, même si très probablement vous avez déjà entendu parler de ce verset. Alors c'est 1 Corinthiens 4 et verset 7. Je vous le lis. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors voilà, ça c'est la phrase que je voudrais qu'on conserve comme fil conducteur de ce message ce matin. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Alors voilà le verset clé de notre prédication ce matin, ça ne va pas être très long. Et on va relire. Mais si on voulait reformuler cette question, ce que « qu'as-tu que tu n'as reçu ?» ça fait un petit peu curieux à prononcer. On pourrait dire « qu'est-ce que tu as et qui ne t'a pas été donné ?» Qu'est-ce que tu as chez toi ? Qu'est-ce que tu as en toi ? Qu'est-ce que tu as pour toi qui ne t'a pas été donné ? Alors si je replace ce verset dans son contexte, « qu'as-tu que tu n'as reçu ?» je vais vous lire, on ne va pas lire évidemment toute l'épître aux Corinthiens, mais on va lire les versets 4 à 8. Mais je vais commencer par la fin du verset 4, d'accord ? Alors, 1 Corinthiens 4, verset 8 à la fin. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et puis à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » Voilà, c'est intéressant hein, comme passage. Alors si on a replacé le verset dans son contexte littéraire, je vais le replacer très rapidement dans son contexte historique. Alors, Corinthe, c'est une grande ville de Grèce. Hein. Alors, on parle de 700 000 habitants à l'époque, ce qui est énorme. Dans cette ville, on y rencontrait de nombreuses personnes qui savaient énormément de choses, des érudits. Et une église importante s'était formée, contrairement à Athènes, qui avait du mal à démarrer. Mais Paul avait été très entendu à Corinthe, et une église assez grande s'était formée. Et des personnes de grande influence s'y étaient jointes, comme Apollos, dont il est fait question dans ce passage. Apollos, c'était quelqu'un de très qualifié, de très intelligent. Mais voilà, il y avait beaucoup aussi de dérives théologiques qui étaient certainement influencées par un contexte ultra-philosophique, ultra-débauché, où tout était ouvert, tout était permis, tout était possible dans cette grande ville. Donc dans l'Église, il y avait des agissements qui ne plaisaient pas à Paul. Et c'est une des raisons pour laquelle Paul a écrit cette épître. Alors bien sûr, ben, quand il y a des gens qui défendent un avis, des gens qui défendent un autre avis, eh bien ça crée des divisions, on va dire, ça crée des clans. Ce qui n'est pas bon dans une église, on le sait. Il y a eu un clan pro-Paul, il y a eu un clan pro-Apollos, et les gens se disputaient. Et Paul écrit ici pour dire « calmez-vous ». Arrêtez tout ça, vous êtes dans l'erreur. Alors, Moi, quand je lis ce descriptif très sommaire et très rapide de l'église de Corinthe, je me dis, mais quelle ressemblance avec nos églises d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Des clans, il peut y en avoir. Il peut y avoir aussi des telles personnes qui croient très fermement à quelque chose, qui n'est pas forcément fausse, hein, mais le but n'est pas de la défendre ou pas. Une autre qui dit, moi, je crois en autre chose, je ne suis pas d'accord, les gobelets de la scène devraient être alignés sur le long d'une ligne et non pas en cercle, voilà. Bon. Voilà, et le genre de choses qui peut arriver, et puis il peut y avoir des tensions dans l'Église, voilà. Eh bien, Paul recentre le débat en disant, mais attention, qu'est-ce qui te distingue? Il y a trois questions. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu toutes ces choses, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi tu te... je vais me permettre un mot, pour qu'on comprenne bien, mais pourquoi tu frimes, si vous me permettez. Eh bien, Paul recentre en disant, tout ce que vous avez reçu, et il ne répond pas hein, à la question, mais on sait, on connaît la réponse. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Rien, en fait, effectivement, enfin tout. Je n'ai rien fait par moi-même. Tout me vient de Dieu. Et effectivement, Dieu nous a tout donné. Et quand je dis tout, il nous a tout donné. Que ce soit bien sûr la santé, le souffle de la vie, l'air qu'on respire dans nos poumons, tout ça, ce sont des dons de Dieu. La vie, les bénédictions, la famille, le travail, on pourrait faire une liste absolument énorme, un salaire, des amis, un cadre peut-être, un cadre de vie privilégié. Eh bien, toutes ces choses sont des raisons de louer Dieu, de le remercier, de lui dire merci, parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Et tout ce qu'il nous donne, rien ne se passe sans que son accord ait été prononcé. Et je cite Matthieu 10, versets 29 et 30, vous n'êtes pas obligé de chercher, c'est Jésus qui parle, « Ne vantons pas deux passereaux, des passereaux c'est comme des moineaux, ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre, c'est-à-dire il n'y en a pas un seul qui meurt, sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Tout nous a été donné. » Toutes les choses de notre vie sont des cadeaux de la part de Dieu. Je pourrais m'arrêter déjà là en disant, voilà un formidable sujet de louange. Mais il y a encore un cadeau plus grand. Vous l'attendiez certainement, vous vous dites, ah, il a oublié. Non, il y a un cadeau encore plus grand, le cadeau le plus suprême, un cadeau suprême qui est le don de son Fils, de Jésus. Le salut, le pardon des péchés sont aussi des cadeaux qui sont offerts à nous tous. Jésus s'est donné lui-même. Il y a donc un texte que je vous lis en Galates 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus s'est donné pour nous. Jésus est un cadeau pour nous. Et ça a été la volonté du Père. Et bien, en plus de s'être donné lui-même pour nous, il nous a donné son esprit pour nous animer, pour nous soutenir comme une puissance. Et en même temps, il nous donne un concept que l'être humain sait beaucoup imaginer, mais beaucoup d'êtres humains n'y croient pas, c'est la vie éternelle. Alors je vais séparer cette prédication en trois points. Je viens de terminer le premier et je vous donne le titre des points à la fin des points. C'est pas logique. Mais à la fin de ce premier point, je vous dis, bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Alors s'il nous a donné tout ça, pourquoi trouvons-nous des raisons de nous enorgueillir? S'enorgueillir, c'est en rajouter, se mettre devant, voilà. Paul dit encore à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, parce que c'est un danger pour quelqu'un qui a effectivement des possessions, bah de voilà, t'as vu tout ce que j'ai, t'as vu la belle voiture, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne, en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Hein, Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, pour que nous en profitions, il faut le dire. Oui, alors effectivement, ce n'est pas parce que nous recevons de Dieu que nous pouvons nous sentir automatiquement supérieurs aux autres. Et on peut être amené très facilement, et c'est souvent mon cas, à penser que telle personne, elle est bizarre, elle est curieuse, si elle est comme ça, c'est certainement qu'elle a fait des mauvais choix dans sa vie, je pense qu'il y a un moment où elle n'a pas été très très sérieuse, mais voilà, elle paye, hein, c'est normal. Sa situation actuelle, on récolte ce qu'on a semé. Hein. Voilà, on peut être amené à avoir des discours en nous-mêmes, ou de les dire, des discours qui ne sont pas convenables. Et pour illustrer mon propos, je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le métro. Il y avait énormément de monde ce jour-là. Je ne le prends pas souvent. Il y a des gens qui le prennent tous les jours et beaucoup dans la salle, sûrement. Et là, je plaignais les personnes qui prennent le métro tous les jours. C'est très simple, on était comprimés les uns aux autres et dans une gare rentre une famille entière de personnes qui, d'apparence, tout le monde avait compris, qui vivaient dans un bidonville. Les gens mettaient leur veste sur le nez tellement ça sentait mauvais dans le métro. Mais on ne pouvait pas sortir, il fallait bien qu'on aille au bout. Et là, je me souviens avoir une pensée, je me dis, mais quelle misère, c'est incroyable qu'on puisse en arriver là. Et j'ai regretté cette pensée parce que c'est pas parce que ces personnes sont là, c'est pas parce que ces personnes sentent mauvais que je suis meilleur. Qu'est-ce que j'ai, moi, que j'aurais eu par mes propres forces? Alors d'accord, j'ai un bon boulot, mais je ne l'ai pas décroché par mes propres forces. Alors, il y a eu des éléments qui ont permis que les choses se fassent, mais ces éléments aussi sont des dons de Dieu. Si quelqu'un m'a repéré pour m'embaucher et me prendre dans son équipe, ça aussi c'est un don de Dieu, c'est pas par mes mérites. Et on peut être amené à penser des choses comme ça et de se mettre au-dessus, mais de manière totalement automatique, en disant, oh là là, enfin, il pourrait faire un effort quand même, ses habits sont sales, ils sentent mauvais, ils ne peuvent pas. Peut-être qu'ils ne peuvent pas. Et moi, si j'ai des habits qui sentent le soupline, c'est une bénédiction. Alors, c'est une petite bénédiction, ou peut-être que vous pensez que c'est une petite, mais toute bénédiction est une grande bénédiction. Tout est grâce de Dieu. Si j'ai une maison qui est plus jolie que celle de mon voisin, ou de mon frère, ou de ma sœur, bien, là encore, c'est une grâce, mais il y a danger, faisons attention de ne pas dire « t'as vu ma super maison ». Et j'ai été étonné, il y a un verset dans Hébreux, au chapitre 3, qui dit « chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu ». C'est bon, hein ? Hébreux 3, 4. Ou alors si un frère ou une sœur a un salaire nettement inférieur au mien, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est pas parce que j'ai mieux travaillé à l'école, ou parce que la personne, mon frère, ma sœur, a moins bien travaillé à l'école. Peut-être qu'elle a moins bien travaillé à l'école, peut-être que j'ai mieux travaillé à l'école, c'est pas vrai. J'ai pas mieux travaillé à l'école que vous. De bien travailler à l'école, c'est une grâce. Il y a des enfants qui évoluent dans des cadres privilégiés et qui ont des parents qui peuvent les aider. Quand on habitait aux Ulysses, on a rencontré beaucoup d'enfants dans l'école de nos enfants qui ne pouvaient pas faire leurs devoirs à la maison parce que tout simplement, les parents ne parlaient pas français. Pas facile de faire une leçon de français, une dictée et de l'orthographe quand les parents ne parlent pas français. Et tout ça, c'est une grâce. Alors si jamais, effectivement, mon frère, ma sœur a une plus jolie maison, une plus jolie voiture. Eh bien, pourquoi aussi tomber dans la jalousie en disant « Mais je comprends pas, moi, avec toutes les heures que je fais, c'est incompréhensible. Nous, on vit dans un logement, dans un T3, aux Ulysses, et puis eux, bon, en plus, on a à peu près la même formation, ils ont une maison bien plus jolie, avec un magnifique jardin. En plus, ils ont un jardinier. Mais je voudrais terminer ce point en disant, alors vous vous rappelez le premier point, hein, bénissons Dieu pour ce que nous avons reçu. Deuxième, fin de ce deuxième point, bénissons Dieu pour ce que mon frère a reçu. C'est pas une occasion de dire, de pas être content, de râler, de contester, de se révolter, mais bénissons Dieu, merci Seigneur, parce que, excuse-moi Nelson, Nelson a une très très belle voiture. Il n'y a pas de voiture. Mais voilà, je suis content pour toi. Je suis sincèrement content pour toi. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ça se voit que tu es heureux. Et je suis heureux pour toi. Bénissons Dieu pour ce que mon frère ou ma sœur a reçu. Parce que tout ce qu'elle a reçu, elle l'a de Dieu. Et chers amis, dans l'Église, il y a bien des différends qui sont causés par ce sujet-là. Par des questions d'ego ou de jalousie, parce qu'on se regarde les uns les autres, et on préfère, et puis surtout on se compare. Mais il y a même des choses qui sont incomparables, mais on arrive à les comparer. Il n'y a pas de grands sages. Il n'y a pas de gens qui sont moins sages, qui sont inférieurs, et qu'on ne peut pas écouter, et qui ne sont pas dignes d'être écoutés. Il n'y a pas de personnes qui ont des diplômes plus importants qu'un autre. Alors, dans le monde, oui, il y a des diplômes plus importants que d'autres, mais dans l'Église, il n'y a pas ces différences. Il n'y a pas des grands et il n'y a pas des petites gens. Il n'y a dans l'Église que, et dans mon texte, dans mes notes, j'ai marqué que en gros, en lettres capitales, dans l'Église, il n'y a que des enfants de Dieu au bénéfice de sa grâce et de sa bonté. Il n'y a que des enfants de Dieu au bénéfice de sa grâce. Et si moi je suis au bénéfice d'une grâce que Dieu m'a faite, eh bien, si possible que je puisse en faire profiter mon frère. Je vais donner un exemple. Quelqu'un achète une très belle maison, on est content pour lui, et cette maison a une piscine, ou j'achète une belle maison, je vais pas acheter, hein, une belle maison, il y a une piscine, eh bien, on est content, bien sûr, pour nous-mêmes on est content, l'Église se réjouit pour nous, eh bien, allez, on vous invite, et puis on se fait une partie piscine la semaine prochaine. J'ai connu une dame qui, du jour au lendemain, une dame qui avait des responsabilités dans une entreprise, qui du jour au lendemain a tout perdu. Mais c'était un peu comme Job, hein, qui a perdu donc son grade, qui a été licencié, qui a perdu les acquis qu'elle avait. Et cette femme, j'ai assisté à cette détresse. Et c'est une femme de très très grande valeur, que j'ai beaucoup admirée, que j'admire encore d'ailleurs. Elle a tout perdu du jour au lendemain. Mais alors quasiment de manière instantanée, du jour au lendemain, elle a tout récupéré. Elle était embauchée dans une autre entreprise, à un poste encore meilleur, et avec des bénéfices encore meilleurs que dans la première entreprise. Alors, bien sûr, moi, que j'apprécie beaucoup cette personne, je me suis beaucoup réjoui pour elle. Mais on pourrait être tenté de nous dire, mais je ne comprends pas, cette personne, enfin je ne sais pas si c'est le cas, mais on pourrait dire, mais cette personne rejette Dieu d'habitude. Et puis là, tout lui sourit, tout arrive, elle est réhabilitée intégralement, tout lui arrive sur un plateau, et elle ne croit pas en Dieu peut-être, je ne comprends pas, moi je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église tous les dimanches, je suis sérieux, je suis engagé, et puis mais moi je n'ai pas eu le droit à un pareil traitement. Mais comment peut-on raisonner comme ça? Dieu aimerait-il plus un homme qu'un autre? Non, Dieu aime autant ses enfants, mais c'est ça qui est beau. Dieu aime autant ses enfants que des personnes qui ne sont pas ses enfants. Et ce que Dieu a fait pour cette femme, eh bien ça porte un nom. Ça s'appelle une bénédiction. Et dans mon cœur, je me souviens que j'avais remercié Dieu pour cette réhabilitation spectaculaire pour cette personne. Il a fait du bien à quelqu'un qui ne lui appartient pas. Et qui sait, peut-être, c'est au travers de cette bénédiction que cette personne rencontrera peut-être un jour, et je l'espère, son sauveur. Jésus nous a laissé un message encore qui, en Matthieu 5, qui dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et non, soyez jaloux d'eux, hein. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever, alors ça c'est très connu, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et c'est beau, je trouve ça magnifique, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tout de suite protégé c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est automatiquement supérieur aux autres et qu'on a des choses que les autres n'auront jamais. Non, non, Dieu fait grâce, Dieu accorde sa bénédiction à l'un comme à l'autre. Alors, au lieu d'être jaloux et nous poser des questions et nous révolter en nous-mêmes en nous disant « Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi ?» Ben, réjouissons-nous pour eux. Et donc, j'en arrive à la fin de ce troisième point, vous vous rappelez ? Bénissons Dieu pour ce que nous avons reçu. Bénissons Dieu pour ce que mon frère ou ma sœur a reçu. Et bénissons Dieu pour ce que mon voisin a reçu. Merci Seigneur. Et j'en arrive à ma conclusion. Je voudrais vous laisser trois applications. Avec une telle réalité, bénissons Dieu. Et réellement, prenons un temps de louange, parce que c'est vraiment un temps de louange pour tout ce qu'il nous donne. Et si, moi je vous invite, chez mes parents, je vous l'avais déjà dit, il y avait une petite gravure sur un petit tableau en bois où il y avait marqué « Si nous prenions le temps de compter tous les bienfaits que Dieu nous donne, il ne nous resterait plus de temps pour nous plaindre. » Et je pense que là, nous avons là une bonne application, c'est nous réjouir et être reconnaissant envers Dieu. Et si nous prenons ce temps, eh bien nous le prendrons automatiquement sur le temps que nous prenons habituellement, sur le temps que je prends habituellement pour me plaindre. Car tout nous vient de lui. Deuxième application, efforçons-nous de considérer n'importe qui que nous croisons, que ce soit notre frère, notre sœur, ou que ce soit notre voisin, que ce soit un automobiliste dans la rue. Efforçons-nous de considérer ces personnes comme étant des personnes au bénéfice de la grâce de Dieu, au bénéfice de la bénédiction. Et nous qui avons tout reçu, c'est la dernière application, nous qui avons tout reçu, et si nous donnions un petit peu de temps pour rendre ce que nous avons reçu, parce que si nous avons reçu, si tout nous a été donné, rien ne nous appartient. C'est très important à savoir, si nous avons reçu, si tout nous est donné, rien ne nous appartient. Et alors si rien ne nous appartient, prenons un peu de temps pour rendre, pour transmettre, pour donner à notre tour quelque chose à notre frère, notre sœur, mais pas uniquement, à nos amis, à nos connaissances. Et nous avons ne serait-ce que le trésor du salut en nous, et ce salut nous pouvons le transmettre autour de nous, comme un cadeau, en disant, mais voilà, ce que j'ai, ce qui m'a été donné, ce cadeau immense, cet amour de Dieu, je voudrais te le donner aussi à mon tour et te le transmettre. Et si ce n'est pas le cadeau de Dieu, ça peut être aussi une pensée, un coup de fil, un coup de téléphone, des sous, un cadeau du temps consacré à une personne. Rien ne nous appartient. Et en plus, il paraît, et ça c'est la Bible qui le dit, que quand on donne, on a encore plus de joie que quand on a reçu. Et moi qui vous dis depuis tout à l'heure de nous réjouir, de bénir Dieu pour tous ces cadeaux qu'il nous fait, et pour les cadeaux qu'il fait, tout ce qu'il donne aux autres, eh bien, combien pouvons-nous nous réjouir encore plus, d'autant plus si nous prenons du temps pour donner un peu aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je voudrais vous laisser avec ce verset d'Apocalypse qui dit, comme une louange au Seigneur, parce que vraiment j'avais à cœur aujourd'hui de vous apporter cette petite phrase, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» comme un sujet de reconnaissance. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen.